France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Depuis l'annonce d'un cessez-le-feu à Gaza, la guerre semble reculer, mais elle continue, plus diffuse, plus intermittente et donc plus facile à tenir à distance. En Israël, ce temps flou prolonge le choc du 7 octobre et resserre le débat public autour de l'urgence sécuritaire. Or, ce moment ne dit pas seulement quelque chose du conflit, il dit quelque chose également d'une société, la place grandissante du religieux, le basculement politique, les fractures sociales, l'effacement de la question palestinienne dans le débat intérieur. La guerre accélère ses dynamiques, rend la critique plus coûteuse et durcit ce qui peut se dire. Alors où va la société israélienne quand la guerre s'installe dans la durée? Et qu'est-ce que ce durcissement fait à la démocratie? Une invitée ce soir pour nous éclairer, Sylvaine Bull. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, chercheuse rattachée au laboratoire d'anthropologie politique de l'EHESS. Vous êtes spécialiste du conflit et d'Israël. Vous avez publié Israël après le 7 octobre. C'est aux presses universitaires de France. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. Et un fait pour commencer, Sylvaine Bull. Mercredi dernier, au moins 24 personnes sont mortes dans de nouvelles frappes à Gaza, selon le ministère de la Santé de Gaza dirigé par le Hamas. Il s'agit de l'une des journées les plus meurtrières dans l'enclave depuis 4 mois. La société israélienne a-t-elle le sentiment d'être en guerre? Est-elle en guerre, comme elle l'est effectivement d'ailleurs?
Oui, oui, la société israélienne se considère toujours en guerre et importe même la guerre de Gaza à l'intérieur sous des formes peut-être de violences symboliques et autres qui sont tout aussi néfastes. La société israélienne s'est même détournée des derniers événements que vous citez, à savoir que c'est quelque chose désormais qui est lointain, Gaza, qui est sous-traité à un conseil de paix, à un conseil de transition dont on ne sait pas très bien le rôle. Et il y a par contre une espèce de... Il y a un double effacement de la Palestine par rapport au fait que, en effet, on ne veut pas voir ce qui s'y passe, mais aussi par rapport au fait que le front intérieur et la violence intérieure devient un vrai sujet de préoccupation. Et vous avez raison de dire qu'il faut tout regarder parce que si on veut comprendre l'avenir d'Israël, pour autant qu'on ne veuille pas l'effacer, il faut en voir toutes les transformations et surtout voir toute l'évolution très critique, malheureusement, de ce pays. Et c'est une situation qui est, en effet, très préoccupante. Mais si nous pouvons faire cette critique-là, ce n'est pas pour effacer Israël ou pour effacer le 7 octobre, comme le voudraient certains, mais pour montrer que peut-être il y aurait, à long terme, un rebond ou alors... Au contraire, peut-être un affaiblissement définitif d'Israël.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, Sylvaine Bull, dans la toute première partie de votre réponse, lorsque vous dites d'une part que la société israélienne a bel et bien le sentiment d'être en guerre, et de l'autre, cette société se détourne, donc refuse de regarder, donc délègue même la guerre à d'autres. Ça signifie que la guerre n'est plus présente ?
La guerre est encore présente, mais encore une fois, Gaza maintenant, si ça a été le sort des Israéliens, ça l'est de moins en moins. Il y a une espèce de barrière morale qui est mise, finalement, sauf lorsque peut-être les soldats vont parler. On sait que des personnes vont parler. On sait que les journalistes vont parler, les soldats vont parler, ils ne parlent pas, ils n'ont pas le droit de parler. Et ça, c'est une espèce de silence assourdissant, mais qui est, selon moi, une façon de continuer la guerre. Mais de continuer la guerre en disant, vous voyez peut-être que Gaza était l'étape préalable de quelque chose que l'on voudrait voir effacé à l'intérieur du pays, tout ce qui est libéral, démocratique et palestinien. C'est en ce sens-là que je parle de continuation de faire la guerre, c'est-à-dire réarmer encore plus le front autoritaire. Israël est en train de devenir un État autoritaire, comme les États-Unis, mais il prend cette espèce de prétexte de Gaza pour désormais se déplier sans aucune inhibition sur des fronts parasécuritaires, militaires, religieux, on peut y revenir, et surtout celui de la colonisation, qui est une deuxième guerre à bas bruit, mais qui est une guerre.
Justement sur la colonisation, je voudrais vous faire entendre la voix d'Asma Al-Sharbati. Elle est maire adjointe de la ville palestinienne d'Hébron, en Cisjordanie.
La décision vise à retirer à la municipalité d'Hébron ses pouvoirs dans tout ce qui concerne l'octroi de licence,
connaissance, la construction et la réglementation, en particulier dans les zones des avant-postes de colonisation où la municipalité d'Hébron faisait office de soupape de sécurité pour préserver les biens palestiniens et empêcher l'expansion de la colonisation. Désormais, l'action unilatérale d'Israël permet la prolifération et l'extension des avant-postes de colonisation à un rythme extrêmement rapide. Cette question a de graves répercussions et pourrait être l'une des tendances israéliennes les plus dangereuses à l'heure actuelle.
La colonisation et la continuation de la guerre, Sylvain Bull ?
Oui, alors, c'est très intéressant. Moi, j'approuve tout à fait ce qui a été dit, mais j'irai même plus loin. Il y a un changement de grade dans la colonisation qui est extrêmement impressionnant. Pour travailler actuellement sur les avant-postes, je peux essayer de développer un peu. Jusqu'à 2003 et peut-être même 2025, on va revenir peut-être sur le gouvernement, nous avions une colonisation illégale, entre guillemets, par rapport au droit international, mais à peu près encadrée par le droit sécuritaire, les routes, les barrages, les colons qui ont des permis de construire, des programmes immobiliers presque classiques, des conseils de district, une espèce d'appareillage mais qui restait dans l'état de droit. Désormais, nous avons une espèce, là aussi, de désinhibition de la colonisation par une certaine frange de colons qui sont surtout les sionistes religieux, qui sont désormais majoritaires et qui sont absolument désinhibés par rapport à la légalité. Il n'y a plus besoin de s'inscrire dans le droit, notamment parce que ces sionistes religieux, d'ailleurs, ne réfutent l'idée d'un état de droit. Et il y a quelque chose qui se cristallise autour de la terre, autour de la destruction de la terre, ce que ne faisaient pas les colonies, entre guillemets, légales.
Je voudrais justement vous faire entendre trois habitants de Malé Adoumim, une colonie israélienne illégale en Cisjordanie.
Nous, on est venus pour coloniser. On n'a pas le choix. Vous avez toute une génération à Gaza et en Judée-Samarie, c'est la même chose. On leur apprend dès le plus jeune âge à tuer des juifs. Ces islamistes radicaux, ils sont pires que des nazis. C'est très difficile de faire face à ce fanatisme. Il faut une capitulation totale et maintenir un contrôle militaire.
Oui, regardez le 7 octobre. On a entendu la nouvelle de l'attaque. Eh bien, nous, à Malé Adoumim, on s'attendait à ce qu'une vague de terroristes du Hamas débarque d'Alezaria et nous tombe dessus.
L'idée même qu'ils puissent avoir un État, c'est ça qui les radicalise. S'ils ont un espoir, ils vont se battre. Donc on ne peut pas avoir deux États. Soit Israël existe, soit nos ennemis nous anéantissent. C'est les deux seules options. Donc moi, je préfère la solution à un État.
Un reportage issu de l'émission En Société sur France 5. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui me frappent, qui nous frappent dans ces propos. Je voudrais vous faire agir au premier point qui a été soulevé. L'un d'entre eux dit « on n'a pas le choix ». On n'a pas le choix de coloniser, Sylvain Bull.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire quand on n'a pas le choix, c'est-à-dire que tout...
C'est une rhétorique mortifère.
Mais absolument, c'est aussi... Alors, il y a deux choses. On n'a pas le choix. Cela veut dire que tout ce qui est palestinien est un obstacle. Mais pas que ce qui est palestinien, ce qui est laïque, ce qui est démocratique, ce qui est intellectuel, ce qui est médiatique, est un obstacle à un projet qui, encore une fois, est désinhibé. C'est-à-dire qu'on ne pense plus la question de la trajectoire politique vers la coexistence ou éventuellement un État, une solution à deux États, dont plus personne ne prononce le nom, mais c'est le contraire. Tout ce qui gêne à un État national suprémaciste doit être gommé. La deuxième chose, et c'est mon hypothèse pour le coup en tant que sociologue, parce que je travaille sur les sionistes religieux que j'appelle les déracineurs, il y a comme une espèce de... Il y a un faisceau de sentiments négatifs qui arrive là, dans ces avant-postes, mais Malé Adoumim n'est pas tout à fait un avant-poste, dans les avant-postes, dans les colonies, comme si désormais ce que j'appelle les néo-sionistes colons irriguait, synthétisait toutes les formes de sentiments politiques négatifs, la haine de l'autre, la haine de la démocratie, la haine de la pureté, la haine du palestinien. Et encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est que ça converge en particulier vers des formes territoriales qui permettent de déraciner de la terre, d'approprier, etc. Donc pour moi, c'est une nouvelle stratification dans la colonisation.
Vous faites paraître, Sylvain Bull, cet ouvrage intitulé « Israël après le 7 octobre », c'est aux presses universitaires de France. L'une des idées centrales de cet ouvrage, c'est peut-être que le 7 octobre est venu faire sortir des émotions qui appartenaient jusqu'alors à la sphère privée. Expliquez-nous.
Absolument, il y a, comme dans toutes les sociétés, occidentale ou pas occidentale, une liminarité que le sociologue Robert Elias avait bien décrit, entre ce qui est du domaine du sentiment de la pulsion, qui est canalisé par des institutions publiques ou par l'espace public. Le 7 octobre a fait sauter ce verrou de la liminarité. Tout ce qui était ressentiment, frustration religieuse, est maintenant totalement plein dans l'espace public.
Et ça n'existait pas, je provoque évidemment cette question, mais ça n'existait pas, ou en tout cas à peine, ce ressentiment sur la place publique ?
Ça existait, mais c'était absolument encadré d'une part par un État fort, comme les États occidentaux, avec des institutions sociales, l'éducation, l'université, qui régulent l'opinion publique. Et ça existait chez les religieux, mais encore une fois, j'emploie le terme de désinhibition à tous les étages. C'est un effondrement qui permet une désinhibition, et une désinhibition qui permet l'effondrement. À savoir que tous les sentiments peuvent se répandre, et notamment, parce que nous n'avons pas encore parlé, parce qu'il y a véritablement une transformation de la trajectoire de l'État autour de l'armée, du sionisme religieux et du gouvernement.
On va y venir, mais avant ça, je vous cite, Sylvain Bull, vous écrivez « Le traumatisme collectif n'est pas éteint et laisse des traces profondes dans la psychologie collective israélienne, un sentiment de perte d'horizon tangible, un flou concernant l'avenir du pays, un effondrement de l'éthos sécuritaire. » De quoi parlez-vous lorsque vous parlez d'effondrement de l'éthos sécuritaire ?
Et précisément, c'est cet état sécuritaire qui est apparu à 67, qui est une notion des plus sophistiqués en Occident, avec une armée l'une des plus puissantes du monde, une armée qui aussi est organisée, avec ses intellectuels, son armée high-tech, toute une série de dispositifs performatifs qui ont évolué au fil du temps et qui a fait penser que les Israéliens étaient forts. Or, ils se sont avérés un colosse au pied d'argile le 7 octobre, puisque l'effondrement, il est celui de la structure sécuritaire et de tout ce qui accompagne la croyance dans l'État sécuritaire. Et c'est cela qui a provoqué un effondrement moral. Et c'est une donnée assez nouvelle, parce que les Israéliens avaient pensé avoir un mur comme un théâtre d'ombre, avec des Palestiniens derrière, les permis, les 400 000 permis, etc. Et ça, on voit bien que ça n'était pas suffisant et qu'il y avait sans doute une ontologie palestinienne plus puissante qui voulait venir les envahir. Et donc c'est cette croyance dans du colosse au pied d'argile qui s'est effondré, surtout que ça a ranimé évidemment d'autres guerres, le souvenir de la Shoah.
Vous pointez également une désintellectualisation de la société israélienne et une volonté de certains pans de cette société d'être en post-vérité.
Oui, alors, il y a deux choses. Il y a la post-vérité qui est vraiment entretenue, mais comme aux États-Unis, malheureusement, Israël risque d'être un avant-poste avec les États-Unis de ce qui peut-être peut advenir en Europe.
Mais cette volonté, d'où vient-elle ? On voit bien qu'il la nourrit, mais d'où vient-elle ?
Elle vient vraiment d'un système médiatique qui est devenu hémiplégique, qui est devenu monochrome et qui ne voit qu'une réalité, avec un système médiatique qui est de plus en plus, j'ai envie de dire, mécréant au sens où il est ignorant. Ça, c'est la première chose. Il y a une haine des médias, une haine des intellectuels qui s'est installée et qui, par ailleurs, est fomentée par des lois. Il y a un certain nombre de lois qui vont être prises sur les intellectuels, etc.
Vous nous avez dit, en préparant cette émission, que le mot même, le terme même de Palestine était gommé du débat public contemporain en Israël. Qu'est-ce que cela signifie ? Il n'est plus possible aujourd'hui de parler de la Palestine, d'aborder cette thématique comme un objet de débat public ?
Oui, alors il n'y a même pas besoin de dire qu'on ne peut plus, au sens où il y aurait une censure, il y a ça aussi. Mais au fond, cette espèce d'éthos de la pureté et de tout ce qui fait obstacle à quelque chose qui est en train de se redistribuer autour d'un État autoritaire et religieux, eh bien, ça disparaît. Les personnes ont intégré que la Palestine, les acteurs ordinaires, les électeurs, les citoyens, que la Palestine n'était plus un horizon. Qui va encore parler de la solution à deux États chez les politiques ? Yair Golan n'en parle pas, celui qui est sans doute le plus démocrate, le plus humaniste. Il ne peut pas en parler. Il sait que le petit crédit qu'il aurait dans les élections qui vont arriver vont être supprimés. C'est cet effacement-là qui est sémantique.
Et dans la société civile, est-ce que c'est la même chose dans les associations, dans les partis, peut-être à la base des partis, parmi les militants, dans d'autres franges de la société israélienne ?
Alors, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que ça révèle aussi une très grande peur de l'autre. S'il y a ce besoin de construire un bouclier aussi violent par rapport à l'autre, c'est que cela veut dire que le trauma est très, très, très loin d'être épuisé et qu'encore une fois, il s'accroît avec ce continuum de la guerre qui revient à l'intérieur. Sur l'opposition et la possibilité de parler de Palestine, oui, il y a des groupes marginaux, mais qui existent en Young Together, mais pas que, hein, mais qui n'ont pas de chance d'être entendus parce que l'étau est beaucoup trop fort. C'est pour cela que je pense, encore une fois, si on veut assainir la situation israélienne et en faire une critique mélioriste, il faut d'abord tout simplement se focaliser sur la compréhension de cet état religieux et autoritaire. Ensuite viendra le temps de penser le commun, la composition du bien commun et le rôle des associations. Pour le moment, elles ne font que penser des petites brèches, des petites plaies. Elles essayent d'organiser une aide humanitaire. Elles font des cordons sanitaires autour des colons sionistes religieux, mais c'est dérisoire, il faut bien le dire. Et puis, n'oublions pas que chez les intellectuels qui fomentent ou qui fournissent les ONG, beaucoup s'en vont. Hein. N'oublions pas qu'il y a 60 000 départs chaque année, et ce sont beaucoup des étudiants, des intellectuels, mais qui ont des niches alternatives pour autant.
Alors sur l'État justement, allons-y, confrontons-nous à ces transformations depuis le 7 octobre. Ce que vous pointez bien, c'est qu'il ne faut pas résumer cette recomposition à Netanyahou lui-même. Ce qui pèse, c'est la place prise par une droite nationaliste, religieuse et suprémaciste et sa capacité à peser sur l'ensemble des institutions. Racontez-nous là aussi cette bascule, Sylvaine Bull.
Oui, alors... Sachant que Bibi reste un élément central, contrairement à ce Netanyahou, que l'on pourrait croire, Netanyahou, il risque peut-être de gagner les élections. Pourquoi ? Parce que précisément, il est ce caméléon qui a été un petit peu laïque, maintenant qui est à droite, et qui est capable de réunir, de synthétiser, de faire des alliances avec des personnes ou des partis qu'il méprisait auparavant. Ce que j'appelle la transformation de la trajectoire de l'État, elle repose sur deux groupes. Enfin, ou plutôt même deux groupes et trois piliers, l'armée, le sionisme religieux et le gouvernement. En ce qui concerne la transformation de la société qui alimente ce fait, il y a deux groupes qui sont sociologiques, qui sont devenus dominants en Israël, et qui ne sont plus les vieux Ashkenazim qui sont en train de décroître du point de vue démographique. Il y a deux groupes, il y a les ultra-orthodoxes, Haredim, qui sont religieux, mais qui sont de plus en plus offensives vis-à-vis de l'État, alors qu'ils sont a priori anti-sionistes, mais ils s'israélisent et ils ont tendance à faire pression sur le gouvernement. Et les autres, c'est ça qui est plus intéressant sur le plan sociologique, ce sont les classes populaires orientales, 60% du pays, et notamment les jeunes générations. Et elles, plutôt que de se tourner vers un agenda social, elles se sont retournées vers la religion, elles ont été captées par des partis, le Likoud, le Chass, et elles essayent elles aussi de transformer à la fois l'État, mais aussi l'image de l'État, avec ce que j'ai appelé l'authenticité.
Dans quelle proportion, pardonnez-moi, pour qu'on mesure bien ce que vous êtes en train de décrire, qu'est-ce que cela veut dire, presque en termes quantitatifs, que les classes populaires en Israël se sont tournées d'une manière massive vers le religieux ?
Alors, la population orientale représente 60% de la population israélienne. La classe d'âge de 20 à 40 ans, mais aussi, on va dire, 50 ans, la classe active, ça représente quand même 3 à 4 millions d'habitants. Et ils sont très présents dans les écoles, les yeshivot, etc., et toutes les écoles religieuses. Et dans l'armée. Les classes populaires ont véritablement pris ce que j'appelle un néo-commandement néo-sioniste de l'armée. Alors, ils ont tendance, armés du bras droit des ultra-orthodoxes, de chasser, par exemple, le grand commandement traditionnel de l'armée, qui était des intellectuels, ce qu'on a appelé l'armée high-tech. Mmh. Et prendre quelque chose, là aussi, de plus populaire, de plus religieux, surtout de plus nationaliste et de plus exclusif.
Ce que vous dites par ailleurs sur le religieux, il faut le décrire là aussi dans ses composantes très pragmatiques, très très à terre, c'est le religieux au sens large et pas simplement la spiritualité et l'institution religieuse, c'est le religieux qui intervient dans la sphère sociale, dans la sphère de l'éducation, dans la sphère aussi plus largement du soutien à beaucoup d'associations en Israël.
Oui, sachant que le religieux peut être spirituel. Mais en effet, c'est quelque chose, et ça c'est une spécificité par rapport aux États, on va dire, européens, du fait que la religion n'est pas déconnectée de l'espace public, même
elle encadre.
Elle est présente. C'est une espèce de concordat. La synagogue est présente dans l'espace public au sens de la représentation. Et cela a toujours été le cas. Il y a les massortis, les traditionalistes, les orthodoxes et les ultra-orthodoxes, mais aussi les messianiques, qui sont les sionistes religieux, notamment le parti de Smotrich, mais aussi allié de Ben-Gvir. Ben-Gvir, c'est le héros de ces classes populaires dont on parle, qui portent la kippa, bien qu'ils ne soient pas toujours religieux, qui veulent un agenda suprémaciste. Ceux-là sont vraiment en train d'infiltrer l'appareil. Mais il y a aussi ce que j'appelle, moi, les messianiques qui ont des formes de vie. Le messianisme, c'est pas seulement l'appel à la prière pour hâter ou ralentir la venue du Messie, c'est une forme de vie. C'est-à-dire qu'on l'a dit, et on revient à la problématique de la colonisation, on doit absolument s'approprier la terre biblique, faire du grand Israël le trône divin. Et de ce point de vue-là, c'est une force religieuse qui est devenue une force politique et active.
Pourquoi n'aimez-vous pas nécessairement l'expression d'extrême droite israélienne ? Pourquoi pensez-vous que c'est un raccourci ? Vous préférez la décomposer avec les termes de nationalisme religieux et de suprémacisme ?
Oui, parce que ce sont deux choses différentes. Ben-Gvir est suprémaciste, mais ça n'est pas l'agenda de Smotrich. Smotrich est nationaliste religieux. Ben-Gvir veut un agenda de la pureté. Donc tout ce qui fait obstacle à cette pureté, mais c'est pas forcément religieux, ça peut être les intellectuels, etc. Il faut les supprimer. Dans le nationalisme religieux recouvre sociologiquement un peu plus de nuances que l'extrême droite. Par exemple, alors on dirait ici en France que Bardella est l'extrême droite, mais Bardella, enfin je ne sais pas s'il est l'extrême droite, reconnaît l'État. Il reconnaît l'État. Dans le nationalisme religieux, il y a, et c'est très subtil et c'est très complexe, c'est pour ça qu'on ne comprend pas toujours, par exemple, le rôle des messianiques et des avant-postes, des nationalistes religieux qui reconnaissent l'État, qui veulent juste que l'État soit plus sioniste religieux, mais qui veulent bien composer avec l'État laïque. Et il y a les nationalistes religieux, dont parlait tout à l'heure la mère à côté de Hebron, qui ne veulent pas d'un État sioniste, qui veulent d'un État théologique et théocratique, qui pensent que la loi halachique doit s'appliquer partout et que celui qui doit donner le commandement, c'est pas l'État, c'est le Messie. Donc c'est des nuances très très importantes.
Je voudrais vous faire entendre deux témoignages de deux Israéliens ayant choisi de quitter Israël pour aller vivre en Grèce.
Si nous sommes partis, c'est surtout pour nos enfants, car ils méritent une enfance comme tous les autres enfants du monde, où ils n'ont pas à s'inquiéter de la guerre, d'aller dans les abris antimissiles, ou s'il va y avoir des sirènes d'alarme ou des bombardements.
Je ne trahis pas mon pays, c'est mon pays qui me trahit. C'est mon sentiment. Parfois, le paradis peut se transformer en enfer. Ça fait 2 ans que je suis de toutes les manifestations, mais à quoi bon ? Il n'y a rien qui marche pour arrêter cette montée de l'extrémisme, du fascisme et tout ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui arrive à notre société, à nos espoirs déçus de ne pas pouvoir résoudre le conflit israélo-palestinien ou d'arriver à un compromis.
Est-ce qu'ils sont anecdotiques, selon vous, Sylvain Bull, ces témoignages que l'on entend, ou représentent-ils une part de l'opinion publique israélienne aujourd'hui ?
Non, je crois que c'est absolument important. C'est peut-être la tragédie d'Israël, c'est que la jeune génération, mais aussi l'ancienne laïque, ne se reconnaît plus dans quelque chose qui a existé, qui a été pionnier, y compris si on remonte au sionisme fondateur de Buber, etc. Et que il y a peut-être maintenant une idée de la nostalgie du sionisme tel qu'il a existé, qui disparaît, hein, comme dirait Walter Benjamin. Et ça, c'est une vraie tragédie, notamment pour la jeune génération, qui, n'oublions pas, est très malmenée par l'international.
Je vous laisse reprendre un peu d'eau pendant que je vous pose une question. Je reviens un instant sur les résistances, pour tenter de les identifier, pour tenter de savoir tout de même si elles existent. Où est-ce que vous, Sylvain Bull, vous les repérez ? Est-ce qu'il existe quand même, face à ce rouleau compresseur que vous décrivez, ces transformations profondes depuis le 7 octobre, des résistances, des lieux où le tabou que vous circonscrivez peut être détruit, en partie du moins ?
Oui, il y a des ouvertures, il y a des horizons. Moi, j'étais en Cisjordanie il y a peu de temps, et aussi à Jérusalem-Est, et j'ai été très surprise par une force très positive des Palestiniens, d'Israël, mais aussi de Cisjordanie, en dehors de ce que nous avons dit sur la colonisation. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui se reconnaît dans la génération israélienne jeune, qui est assez libérale, démocratique, qui a compris que l'État d'Israël était faible, très affaibli, un colosse au pied d'argile, que la temporalité était plutôt côté palestinienne, mais qui veut faire quelque chose, qui veut se glisser dans cet État libéral.
Je vous remercie Sylviane Bull et je vous laisse reprendre un verre, en tout cas une gorgée d'eau. Je vous remercie parce que je redonne le titre de cet ouvrage, Israël après le 7 octobre, qui est apparu aux presses universitaires de France. Et je rappelle que vous êtes sociologue, chercheuse à être rattachée au laboratoire d'anthropologie politique de l'école des hautes études en sciences sociales. Merci beaucoup d'être venu au micro de France Culture. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Rodi Eken, Bruno Barada, Bertie Bourdon à la réalisation, c'était Léa Racine.